They can forbid nearly everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid my tears to flow, and they can't shut my mouth when I sing. They can forbid nearly everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid my tears to flow, and they can't shut my mouth when I sing. And I will sing. They can forbid nearly everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid my tears to flow, and they can't shut my mouth when I sing. They can forbid nearly everything, but they
Eh ben, une petite rencontre pendant ces ronchonnades 2026. Toi, tu fais partie de l'équipe de Bruxelles qui a transmis la chanson Sarah Song. Est-ce que tu veux bien me donner ton prénom?
Mon prénom, c'est Gerda. C'est très difficile pour les francophones pour le prononcer.
Cette chanson, Sarah Song, elle a été écrite en 82 par des militantes du camp des femmes pour la paix de Greenham Common. Ça, c'était en Angleterre. Toi, t'étais où en 82 et c'est quoi ton lien avec cette chanson?
Ok, j'étais pas en Angleterre, j'étais pas dans ce camp de paix de femmes qu'ils ont tenu pendant 9 ans. C'est vraiment impressionnant, un camp de paix pendant 9 ans, contre l'emplacement des missiles nucléaires de l'Amérique en Angleterre. Et j'étais très impliquée dans un mouvement féministe local belge, flamand. Et j'ai appris la chanson là, dans ce mouvement. Et il y a quelques mois, j'entendais quelques femmes de notre chorale chanter cette chanson. Je dis, mais oh, je la connais, ça fait plus de 40 ans que je ne l'ai plus entendue. Et voilà, et puis on a décidé de la choisir pour transmettre ici aux ronchonnades. Pour moi, c'est très important pour les femmes d'aujourd'hui, de maintenant, de savoir que la lutte, ce n'est pas nouveau. Il y a des générations avant nous qui ont fait les mêmes luttes, avec ou sans succès. Et en fait, on est toujours sur les épaules des femmes des autres générations. Et j'aime beaucoup de mémoriser, enfin de rappeler toutes ces histoires de toutes ces femmes qui ont fait ça. Et donc cette chanson est faite par une femme qui était... évidemment, on les mettait en prison pendant quelques jours, quelques semaines. Et donc une des femmes a fait cette chanson dans la prison et elle la chantait très fort pour que les femmes qui étaient dans d'autres cellules l'entendaient et l'apprenaient en même temps. Et puis la police devenait très, très fâchée. Et c'est pour ça qu'elle dit « You can't stop my mouth when I sing ». You know, tu ne peux pas m'empêcher de réfléchir, tu ne peux pas m'empêcher de pleurer, tu ne peux pas m'empêcher de chanter.
Elle s'appelle Sarah alors, celle qui l'a écrit.
Non, c'était pas une Sarah. La Sarah est dans, si j'ai bien compris, elle était dans Sarah Song. Sarah était dans une autre cellule. C'est pas clair qui l'a écrit. Enfin, on n'a pas trop trouvé. They can forbid nearly everything, but they can't forbid me to think. They can forbid nearly everything, but they can't forbid me to think. They can forbid nearly everything, but they can't forbid me to think. They can forbid nearly everything, but they can't forbid me to think. They can forbid nearly everything, but they can't forbid nearly everything. Tu peux m'empêcher de plein de trucs. Mais tu ne peux pas m'empêcher de réfléchir, tu ne peux pas m'empêcher de pleurer et tu ne peux pas m'empêcher de chanter.
Ça traverse le temps, ça.
Ah oui, ça traverse le temps, absolument, oui.
Si on rappelle un peu le contexte, il y a des missiles nucléaires américains qui étaient enfouis en Angleterre, mais pas en Belgique, là où toi tu étais.
Aussi en Belgique, hélas, oui. Donc l'Amérique voulait partout en Europe mettre des missiles nucléaires. En Angleterre, Greenham Common. Chez nous, c'était à Florennes, dans les Ardennes. Et là aussi, il y avait un camp de paix, avec des gens qui étaient en permanence là-bas. Moi, je l'ai visité. C'était juste séparé, très, très récemment, et j'avais 3 petits-enfants. Donc, je n'ai pas partagé au camp en permanence, mais je l'ai visité quelques fois parce qu'il y avait beaucoup de mes amis qui étaient là, et mes amis et mes amis, parce que chez nous c'était pas un camp de femmes uniquement, c'était un camp mixte du mouvement de paix et du mouvement féministe. Et dans ce temps-là, ça me manque un peu maintenant, la bataille féministe et la bataille de paix étaient très liées. On était souvent dans le même mouvement, dans les mêmes manifestations. Alors que maintenant, oui, enfin, c'est beau. Les sujets sont venus beaucoup plus élaborés. Mais donc, dans ce temps-là, c'était. Et le mouvement féministe était très, très social, très sur la société. Et ce n'est que beaucoup plus tard que c'est devenu plus individualiste, disons, avec d'autres nouveaux sujets qui sont importants aussi. Mais dans ce temps-là, c'était surtout sur la société, oui. La place de la femme, les droits des femmes, des trucs comme ça, oui.
Ça devance toutes les questions que j'ai en tête sur c'est okay. Quoi ton regard, toi, maintenant ? Je ne sais pas quel âge tu as.
74, oui.
Et quel regard tu as sur l'évolution du mouvement féministe ? Toi, dans les années 80, tu étais déjà dans des mouvements féministes.
Oui, oui, oui.
Et bon, tu viens d'y répondre partiellement. C'est oui. Que pour toi, quelque chose de plus individualiste qui s'est passé ?
Oui et non. C'est difficile de répondre comme ça, sans nuance. Au début, on était vraiment très ciblés sur les droits de femmes. Mais évidemment, on oublie parfois... Comme c'est récent qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit d'ouvrir un compte, de décider sur les enfants. C'est tout récent, c'est vraiment tout récent. Oui, qu'on a le droit d'aller à l'université. Enfin, quand on repense à toute la bataille qui s'est faite pour pouvoir faire des études, pour avoir son propre compte, pour contre le viol dans le mariage, mais c'est des années 70, tu vois, c'est hier. C'est incroyable.
Et toi, par exemple, dans les années 80, qu'est-ce qu'il n'y avait pas comme droit en Belgique sur lesquels vous battiez ? C'était quoi les choses les plus actuelles ?
En 80, on avait déjà beaucoup de droits. Hein. J'avais le droit de mon propre compte, d'étudier. Ça, c'était déjà fait par les générations avant nous, nos mères et grand-mères. Et plus avant encore, les arrière-grand-mères. Là, c'était surtout la situation à la maison, la violence à la maison. Oui, plusieurs fois, on a aidé une femme à quitter le foyer avec les enfants parce qu'elle était battue à la maison. Ça, c'est un grand thème. Et puis, le droit de rémunération égale pour les femmes qui font le même travail que les hommes. Oui, ça, c'était tous les batailles-là, oui.
Et du coup, aujourd'hui, effectivement, il y a plus de nuances, plus de complexité. Oui. Il y a aussi beaucoup plus de féministes, peut-être, qu'à une époque. Et toi, c'est quoi ton regard sur les jeunes générations, tout ce qui se brasse ici, par exemple, dans les rencontres de chorale ?
Oui, moi, ça m'est grand plaisir quand je vois des jeunes femmes, des jeunes ados même, qui sont souvent très engagés. Le thème de l'environnement, je jouais aussi encore, et déjà, ce moment-là, mais maintenant c'est encore plus, enfin surtout cette année, c'est encore plus vivant. Et c'est très jeunes enfants et ados qui sont déjà conscients et engagés, ça me fait beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis il y a tout ce nouvel, ça c'est vraiment tout nouveau, pour le thème du genre, le thème de il et elle, ou les personnes trans, tout, avec tout ça, c'est tout nouveau. Enfin, c'est pas tout nouveau, mais quand même, c'est nouveau. Et je trouve ça fascinant. Parfois, c'est difficile. Il faut apprendre. Il faut apprendre constamment. Mais je trouve ça très intéressant. Mais ça devient, par ces thèmes-là, aussi plus individualiste. Que c'est important quel prénom que tu me donnes, il ou elle, ou X, ou des trucs comme ça. Alors qu'en même temps, il y a des problèmes planétaires qui sont immenses. Donc, parfois, j'ai peur qu'on se perde sur des sujets qui sont très importants individuellement, mais sur le niveau planétaire peut-être un peu moins, mais sans jugement, hein. C'est ça. Et ça, parfois ça me fait un peu peur parce que les comme le LGBT, etc. plus, enfin moi je sais, mes petits enfants peuvent le dire comme ça, ils disent ce mot-là comme table ou chaise, et ouais, c'est ça. Moi je dois un peu chercher et réfléchir. Les groupes deviennent encore de plus en plus petits et plus spécifiques, parfois contre d'autres. Et je comprends très bien le désir d'être entre personnes qui ont le même combat, les mêmes problèmes, mais il ne faut pas oublier le lien, le commun entre femmes et aussi entre hommes, avec les hommes. On ne peut pas le faire. Oui, on peut aller habiter sur une île avec quelques femmes, mais ça ne va pas changer le monde.
Oui. Et à cette époque-là, donc, il y avait quelque chose de plus lié entre les combats féministes et les combats environnementaux.
Oui, et de paix.
Et de paix.
Et de paix, oui. Mm-hmm. Et donc, je veux encore raconter que contre ces missiles, donc, il y a eu ce camp de paix, mais la plus grande manifestation de jamais à Bruxelles, jusqu'à présent, c'était contre ces missiles. On était 400 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Mais ce qui est vraiment amer, c'est qu'en même temps, les missiles étaient déjà en route vers Florène. Ça n'a rien changé. Ils sont toujours là.
Et c'est pas un peu... à la fois, tu le vois avec quelque chose de très enthousiaste et positif, qu'on soit toujours en train de chanter cette chanson-là et d'autres chansons, et les luttes sont toujours les mêmes avec la Révolution.
Oui.
Mais ça te fait pas de la peine ?
Ah ben oui, beaucoup. Beaucoup, parfois, ça me rend en désespère, parce que quand 400 000 personnes disent non, on ne veut pas ça, et que ça ne change rien du tout, qu'on fait des manifs et des manifs et des manifs et des chansons, et tout ce qu'on fait, parfois je dis, et ça ne change rien, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que ça ne change rien.
Alors qu'est-ce que ça change ?
Beaucoup de choses. Que les femmes, surtout en Belgique, les femmes homosexuelles peuvent avoir un mariage, peuvent avoir des enfants. Je voyais cet après-midi, un couple de jeunes femmes avec leur bébé dans la mer. Et je me disais, mais comme c'est un cadeau que ça peut se faire, sans qu'il y ait des gens qui disent, ici, hein. C'est pas tout. Il y a encore beaucoup de batailles que nous on a faites, qui doivent encore être faites dans d'autres parties du monde. Et ce qui me fait vraiment peur, c'est le mouvement, l'extrême droite et toutes ces idées qui reviennent, toutes les choses qu'on remet en question, qu'on croyait acquis depuis longtemps. En Italie, l'avortement, les parents lesbiennes en Italie, ça me rend enragé, en fait. Cette combinaison de désespérance et de rage, c'est très difficile à vivre. Mais puis, je vois qu'est-ce qui a changé beaucoup. Je vois surtout, beaucoup, c'est les jeunes enfants, même chez mes petits-enfants, beaucoup de sensibilité, beaucoup de respect, beaucoup d'engagement pour la nature, beaucoup de conscience, beaucoup plus de conscience que moi j'avais à cet âge-là. Oui, ça me donne du courage quand même. Et puis, il y a beaucoup de changé. Il y a déjà beaucoup, beaucoup. Il reste encore beaucoup à faire. Et surtout, si on voit dans tout le monde, ça devient encore plus grand, mais il y a déjà beaucoup qui a changé. On ne doit pas oublier de regarder ça non plus. Oui.
They can't forbid my tears to flow, and they can't shut my mouth when I sing. And I will sing. They can't forbid me to sing. My tears will flow. Can't shut my mouth when I sing. They can't forbid me to sing.
Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es retrouvée dans ce mouvement féministe à cette époque-là ? Et qu'est-ce qui a fait que tu as continué ton combat féministe toute ta vie, finalement, jusqu'à 74 ans ?
Ça, c'est une histoire très individuelle. Je travaillais pour un magazine dans ce temps-là, un magazine d'un journal. Et là, j'ai commencé en 73, 74. C'était vraiment le début de la deuxième vague féministe. Donc j'ai vu plein de reportages pour le journal, des premières maisons de femmes, les premières maisons où les femmes battues pouvaient être en sécurité, les centres d'avortement. J'ai fait plein de reportages là-dedans et... Mais là, c'était professionnel. Je faisais des reportages dans ma vie privée. J'étais mariée. on avait des enfants. Enfin. Et puis, le journal pour lequel je travaillais est tombé faillite. Et donc, je me retrouvais, on rêvait, mon mari et moi, de vivre à la campagne, vraiment hippie, très, très idéaliste, très naïf. Donc j'étais là dans un petit village où je ne connaissais personne, je venais de Bruxelles. Mon mari, on travaillait tous les deux mi-temps, mais comme moi j'étais au chômage, il devait travailler plein temps. J'étais là, j'étais enceinte du deuxième, ma fille avait un an, pas encore. Et j'étais tout à fait isolée, j'étais vraiment triste comme tout, mais triste comme tout. Et un jour, j'ai lu dans un journal local une invitation de former un groupe de femmes, un cours de prendre conscience de femmes, quelque chose comme ça. Et puis, voilà, ça m'a sauvé ma vie. Oui, parce que... Mais je me suis jetée comme ça, à 100-150%. Et on a fait plein de choses, on a organisé des rencontres, on a organisé des formations. Finalement, avec deux autres assos, on a loué une maison où se passait plein de choses. On venait un mensuel, des week-ends pour femmes. Enfin, on avait plein de choses, mais c'était ma vie, tu vois. Et je me suis jetée à 200%. Et ça m'a coûté mon mariage, hélas. Mais ça m'a formé comme personne, totalement. Et j'ai encore des amis de ce temps. Enfin, j'ai encore plein d'amis, mes amis. Enfin, j'ai des nouvelles amies, mais j'ai encore plein d'amis de ce temps-là, oui. Ça m'a formé pour ma vie. Et puis, tu vois, quand on est féministe, on ne peut pas à un certain moment dire que je ne suis plus féministe. Et ça me fait mal quand j'entends des femmes qui disent que je ne suis pas féministe. C'est impossible. Comme femme, c'est impossible de dire qu'on n'est pas féministe. Tant que toutes les femmes dans tout le monde, c'est beaucoup, ont les mêmes droits, peuvent pas seulement les, mais peuvent vivre la vie qu'elles veulent vivre. C'est plus que les droits, c'est que chaque personne peut vivre sa vie. Chaque homme, chaque femme, oui. Il y a beaucoup de travail d'hommes aussi qui doit être encore fait. Et donc les premières années, le débat était surtout sur les trucs de société. Et puis ça venait d'Hollande. Encore de loin, on a créé ça s'appelait FORT. C'était en fait des groupes de thérapie, mais sans thérapeute. Feministische Oefengroep Radicale Therapie. Donc, groupe de femmes féministes, Feministische Oefengroep, des groupes de travail, de thérapie radicale. Et donc là, c'était très personnel. Ça, c'est vraiment le travail de soi-même, mais en collectivité, dans un petit groupe de 10-20 femmes. Et là, on a travaillé toutes nos blessures, etc. Mais c'était sans thérapeute, c'était en collectivité. Et au début, je me rappelle des discussions, on va pas se mettre à regarder notre nombril. Mais finalement, c'était important aussi, et ça m'a formé aussi ces années dans ces groupes, dans ce groupe-là, oui. Chaque année, il y avait une rencontre nationale. Une année, c'était le thème « persoonlijk is politiek », le personnel, c'est la politique.
Oui, ça c'est vraiment les féministes de deuxième, troisième vague.
Oui, c'est ça, oui. Mais au début, il y avait des discussions, hein. Oui.
C'était pas évident,
non. Ça nous paraît au début un peu trop introspectif, mais finalement, c'est nécessaire aussi.
Et toi, tu y es allé volontiers dans ce groupe de thérapie radicale ?
Ah oui, avec beaucoup de plaisir. Enfin, plaisir, non, c'était très dur. Mais après, j'ai fait la thérapie normale, disons, enfin traditionnelle, et j'ai appris que dans un groupe autogéré, on peut toucher jusqu'à un certain point, mais après, il faut quand même un professionnel.
Et la place du chant dans tout ça, puisqu'on est dans des rencontres de chant.
Les chants, on chantait pas tellement, mais on chantait dans les manifs. Et là, on apprenait des chants pour chanter aux manifs. Mais c'était pas. Et on apprenait aussi des chants dans notre groupe féministe. Parfois des chants que je chanterais plus, qui étaient vraiment agressifs contre les hommes. Je chanterais plus. Parce que moi, de plus que je viens âgée, j'aime la nuance, j'aime. Enfin, je sais pas, je suis plus dans la nuance. Et quand on chante des chants méchants contre les hommes, c'est comme tous les hommes, c'était nos ennemis. Dans ce temps-là, c'était une phrase, je l'ai répétée cette semaine encore. On disait toutes les femmes sont lesbiennes, sauf ceux qui ne le savent pas. Et donc, quand tu étais encore avec un homme, c'était comme tu dormais avec l'ennemi. Voilà, c'est un peu.
Aujourd'hui, tu vois plus ça comme ça.
Non, ben non, non. Je crois que je l'ai jamais vu comme ça.
Mais les lesbiennes avaient. Je voulais te demander quelle place avaient les lesbiennes à ce moment-là dans ton mouvement, parce que en Suisse, elles étaient très. En Suisse et en France, elles étaient très pionnières et sur le devant du mouvement féministe.
Oui,
avant de se rendre compte qu'on luttait pas assez pour le droit des lesbiennes et qu'elles ont créé les Gouines Rouges ça.
Oui.
Comment c'était en Belgique?
Je me sens un peu humble pour parler pour toute la Belgique, ça je pourrais pas dire, mais c'est vrai que on a eu des frictions, que le mouvement lesbienne trouvait que les autres femmes n'étaient pas assez solidaires, qu'ils étaient seuls dans leur combat, et c'est certainement le cas. Donc on a dû chercher le moyen, et ils étaient en général plus radicales, oui, en général. Mais on a besoin de tout, on a besoin des. C'est dans tous les sujets. C'est un tout autre exemple, l'enseignement. On a besoin des personnes qui sont très radicales, qui construisent leurs propres écoles, etc. Mais on a aussi besoin des personnes qui sont engagées dans l'enseignement traditionnel. Et dans tous les mouvements, c'est comme ça. On a besoin des pionniers et des radicaux, et on a besoin des autres aussi. La question est de ne pas se perdre, de rester en union, de voir que le combat est le même, que le chemin peut être différent, mais le combat est le même et qu'on a besoin de nous tous.
Et toi, tu te sens bien ici, dans les plus âgés?
Oui, au début, l'année passée, j'avais du mal à trouver ma place. J'avais du mal aussi. J'avais peur qu'on me regarde comme une bourgeoise, parce que moi, je suis ici avec une voiture, j'ai un appartement, j'ai fait des études, j'ai travaillé toute ma vie, donc j'ai une pension. J'ai pas des soucis financiers, je suis pas extrêmement riche, mais j'ai pas de soucis financiers. Et je sais que c'est, pour beaucoup de gens ici, c'est tout à fait différent. Donc l'année passée, j'avais peur que j'étais regardée comme une bourgeoise et que j'avais pas le droit d'être ici. Et cette année, j'ai pas ce sentiment. Je sais pas si c'est moi qui a changé ou si l'environnement a changé ou que c'est cette année-ci le cas, je sais pas.
Et est-ce que tu trouves que les jeunes générations, elles sont assez ouvertes à comprendre l'histoire féministe et donc du coup se renseigner, c'est quoi les luttes que vous avez faites? Est-ce que tu penses qu'il y a assez de transmission de part et d'autre? Et est-ce que tu penses qu'ici, dans des rencontres autogérées de chants, on laisse assez de place, on considère assez les personnes plus âgées, quelque chose d'inclusif, tu vois? Ou est-ce que tu penses... Bon, c'est deux questions.
Questions. Je crois pas. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a peu d'intérêt pour toutes ces vieilles histoires. Donc, je suis personnellement très content parce qu'on a, dans notre groupe, on avait trois propositions de chant. On a ensemble décidé que c'était Sarah Song. Et moi, j'étais vraiment très, très ravie que c'était cette chanson-là parce qu'il y a toute une histoire de femmes. Tu sais, tenir un camp de paix pendant 9 ans. Tu ne peux pas t'imaginer le combat, l'énergie. Il ne faut pas oublier. Mais je suis très content que j'avais l'occasion de raconter l'histoire. Enfin, que nous, on avait... parce qu'en général, c'est toujours quand on est jeune. Maintenant, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas parlé plus avec mes parents? Je n'étais pas intéressée quand j'étais jeune. Et quand j'étais intéressée, ils n'étaient pas plus là. Tu vois, c'est le cas de chaque génération, je crois. Donc non, il y a peu d'intérêt, mais je crois que c'est...
Tu crois pas qu'on...
C'est dommage, mais c'est comme ça, je crois, oui. Oui, c'est pour ça qu'on doit savoir que rien n'est évident. Qu'il y a des femmes, aussi des hommes, hein. Mais tout, hein, tout. la fin de l'esclavage, le droit de voter,
la peine de mort,
tout était un combat. Il y a des gens qui ont risqué leur vie, leur revenu, leur place dans la société pour faire ce combat. Et il faut honorer ce combat, je trouve.
Et la deuxième question, c'était, et ici, est-ce que tu trouves qu'on est assez inclusive pour tout le monde?
Je crois. Ce qui me frappe, parce que je vis à Bruxelles, c'est qu'on est presque tous blanches. Donc, c'est un thème. et mon âge, enfin, il n'y a pas trop de personnes de mon âge. Ouais. Quelques-unes, mais je ne suis pas la seule. Je ne suis même pas la plus vieille, je crois, la plus âgée. Mais bon, j'ai l'habitude, parce que de presque tout ce que je fais, je suis entourée des personnes qui peuvent être, qui ont l'âge de mes enfants.
Et ici, tu trouves que ça va?
Oui, oui,
pour
moi, oui.
Tu ne trouves pas qu'on invisibilise les vieilles femmes?
Non, 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 moi, j'ai, non. Ici aussi, enfin, c'est un milieu un peu extraordinaire, mais que tout le monde peut mettre les vêtements qu'il ou elle veut, que personne n'est vu mal, que tu peux t'exprimer comme tu veux, tu peux être que tu es. Et je crois, j'espère que le monde va bouger dans ce sens-là.
Ben, merci.
Ok, avec beaucoup de plaisir.
Merci pour ce témoignage-là.
Merci, et j'ai beaucoup aimé ce moment. Oui, absolument.